Europe 1. Écoutez le monde changer. Europe 1 Culture Média. 9h, 11h. Pascal Clark.
Bonjour ou bien rebonjour, il alterne l'ombre et la lumière, l'ombre des studios où il concocte, arrange, réalise les albums des autres, dernièrement Carla Bruni ou bien Pomme. Et la lumière de la scène quand il joue les chansons écrites et composées pour sa Pomme. Il s'appelle Albin de la Simone et il est l'invité de Culture Média d'ici un petit quart d'heure. Les indispensables recommandations culturelles à faire tourner. Ce matin, Margot Barallon fait dans le vintage pour son chouette série. Perry Mason, avocat de Los Angeles qui ne date pas d'hier, mais là il s'agit du préquel sur OCS. Oui, encore un préquel. Aimez-vous Philippe Djian? Oh oui, découvrez ce matin la première page de son nouveau roman à paraître chez Flammarion 2030. Vous écoutez la seconde heure de Culture Média d'été sur Europe 1. Belle matinée à vous, le journal de la culture est enclenché. Et bonjour Damien Caprespine.
Bonjour Pascal.
Ça va le week-end, bien ?
Très bien, et vous ?
Super, super aussi.
Super.
Au sommaire aujourd'hui Damien.
Au sommaire, une cure de jouvence, un caméléon, un PDG qui énerve, un chanteur célibataire, une moitié de Brigitte, une expo à poil et un sexe symbole latino. Ça va être chaud, chaud, chaud.
Tout ça ?
Tout ça.
Mais d'abord, on commence avec deux disparitions qui ont marqué ce week-end.
Oui, d'un côté, la disparition à 85 ans de Wilford Brimley, un acteur vu notamment dans le film culte Cocoon, réalisé par Ron Howard et sorti en 1985. Alors dans Cocoon, je ne sais pas si vous en souvenez Pascal, mais Wilford Brimley incarnait le leader d'une joyeuse bande de retraités, revigorés et en pleine forme après des baignades effectuées en loose-dé dans une piscine qui contenait des embryons extraterrestres. C'était un film génial, moi je le regardais tout le temps quand j'étais petit.
Ah c'est ça, ah, oui, quand vous étiez petit.
Ah ouais, j'adorais, j'adorais.
Et de l'autre côté, Damien, on a beaucoup parlé ce week-end de la mort d'Alan Parker.
Oui, un décès qui a engendré une pluie d'hommages sur Internet. L'acteur Ben Stiller a salué un grand réalisateur qui a inspiré beaucoup de cinéastes. Le comédien Matthew Modine a expliqué que son travail avec Alan Parker sur le film Birdie avait changé sa vie. L'Académie des Oscars s'est souvenue d'un cinéaste caméléon, le chanteur Peter Gabriel, d'un homme encourageant, passionné et déterminé. Et puis... Don't cry for me, Argentina. Madonna, qui avait travaillé avec Alan Parker en 1996 avec le film Evita, a posté ce message sur son compte Instagram. Alors je cite, « Alan Parker était l'un des meilleurs réalisateurs avec lesquels j'ai jamais travaillé. Il m'a tellement appris, il a cru en moi, il m'a poussé dans mes retranchements. » Et pour réussir à pousser Madonna dans ses retranchements, il fallait assurément beaucoup de talent. Alors Alan Parker avait 76 ans.
Et en même temps, elle a fait tellement de cinéma, Madonna.
Pas tant que ça.
Dans un tout autre style, un chanteur français célèbre en musique les joies du célibat.
Ce chanteur, c'est Bilal Hassani qui vient de sortir un nouveau titre, Dead B. Alors B, en langage urbain, ça signifie Before Anyone Else, autrement dit l'être aimé, l'amoureux. Mais associé au mot dead, on comprend bien que Bilal parle de son ex. Et comme les histoires d'amour finissent mal en général, Bilal ne veut plus perdre de temps. Il revendique donc une vie en solo sur un air d'électro. Dead B, c'est le deuxième extrait de son futur album qui est prévu pour la rentrée. Et puis Bilal, on le connaît bien, Europe 1, puisqu'il a été un des visages de notre dernière campagne de communication. Alors, on y va. Je vous propose qu'on écoute Le Monde Changer.
Ah oui, c'est spécial, hein ?
Ouais, c'est électro.
Nouveau Bilal Hassani. Le PDG de Spotify énerve une fois de plus les artistes.
Daniel Ek, le grand Manitou du site de streaming suédois, a en effet déclaré au site Musical.ly que le problème des chanteurs qui se plaignent de la trop faible rémunération de Spotify en termes de droits d'auteur était surtout un manque de productivité. Alors selon lui, s'ils veulent s'en sortir, les artistes devraient bosser un peu plus, bon, feignant, travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et oublier la nécessaire période de création entre deux albums. Pour lui, il ne faudrait pas sortir un album entre 2 et 4 ans, il faudrait y aller tout le temps. Évidemment, les réactions ne se sont pas fait attendre. David Crosby l'a traité de petite merde avide et désagréable,
ouais, quand même,
je
ouais.
cite, tandis que Mike Mills du groupe REM lui a proposé tout simplement d'aller se faire foutre. Voilà, bonne ambiance.
Bon, moi c'est direct. Voilà. Au cinéma, une moitié de Brigitte se lance dans un road movie alors qu'un road movie à deux, c'est tellement mieux.
C'est meilleur. Membre du duo pop et féministe vient en effet de composer une chanson pour la bande originale du dessin animé, alors Bigfoot Family, qui sera en salle après-demain. Le 5 août, Bigfoot Family, c'est l'histoire du petit garçon Bigfoot, vous savez, cette famille au grand pied. Il va partir en guerre contre des méchants exploitants pétroliers qui sont en train de détruire notre planète. Un message clairement écolo qui a inspiré la chanteuse.
J'aimais bien le côté évasion l'idée de liberté, de retourner un peu à l'essentiel, d'un espèce de retour à la nature. Je trouvais que c'était quand même un thème assez dans l'air du temps. J'aimais bien cette idée de partir à l'aventure dans la nature.
Alors, on ne va pas se mentir, Bigfoot Family, c'est clairement pour les tout petits. Hein. Pas de second degré, n'essayez surtout pas de lire entre les lignes si vous avez dépassé les 10-12 ans. Mais c'est plutôt bien foutu. Et cette chanson donc, de Sylvie Oaro, membre du duo Brigitte, elle est vraiment réussie. Alors, je vous propose qu'on écoute un extrait.
Chanson composée avant le Covid, donc.
Hein. Ouais.
À Paris, le gendarme de Funès va enfin être un peu plus cool.
Attends-toi, gendarme !
Habillez-vous vite, vite ! Par la main !
C'est l'association naturiste parisienne qui a eu cette excellente idée. Le 13 septembre prochain, de 9h à 11h30, une visite de l'exposition Louis de Funès à la Cinémathèque française pourra se faire entièrement nue. Alors, c'est une belle revanche pour ceux qu'on appelait encore les nudistes dans la France des années 70 et qui se faisaient harceler par le fameux gendarme de Saint-Tropez. Alors aujourd'hui, les temps ont changé, les deux communautés devraient pouvoir cohabiter sans difficulté. Seul bémol dans cette visite, libre comme l'air justement, le port du masque sera obligatoire. Mais si ça vous intéresse, Pascal, que vous souhaitez y participer, toutes les infos sont à retrouver sur le site de l'association www.naturiste-paris.fr. Ils nous ont mis 2 places de côté, ils me l'ont dit hier soir.
Ah oui, bah ouais. Écoutez, je vais passer mon tour, moi.
Oh.
Ah, si. Il n'y a pas un extrait, là ? Non, bon.
Ouais, on peut
bon
mettre
papier.
Un petit coup de Funès, ça fait jamais de mal.
Et figurez-vous que notre invité, Albin de la Simone, a quelque chose à voir avec l'expo.
C'est vrai ?
Ouais. Il a dessiné, parce qu'il est aussi dessinateur, il a fait les Beaux-Arts et il a dessiné tous les produits dérivés de l'expo Louis de Funès à la Cinémathèque.
Très jolis.
Et on termine avec une bomba latina.
On a Bamba qui s'appelle Maluma, c'est la superstar latine. En ce moment, il enchaîne les tubes, il a chanté avec Madonna, Shakira, Ricky Martin. Il a même fait un duo avec Aya Nakamura pour lancer le titre Dja Dja sur le marché latino-américain. Écoutez sa version.
Oh yeah, yeah. Tu solita te matas. Pensando que tengo gatas de mars y que me la paso de fiesta.
Voilà, donc Dja Dja devient donc Yaya, mais aujourd'hui c'est surtout avec un nouveau single en solo que Maluma revient sur le devant de la scène. Alors c'est Hyper Love, Maluma tente de reconquérir le cœur d'une jeune fille qui vient de le larguer. Alors si vous êtes prête ou prêt d'ailleurs à succomber au charme du Latin Lover, voici rien que pour vous un extrait de Hawaii. Voilà, c'est cadeau.
Hawaii,
ça s'appelle Hawaii, c'était le cadeau de Damien Cabrespin. Merci Damien, à demain. Albin de la Simone va arriver, le temps pour nous et pour vous également d'écouter Allo et Black sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Pascal Clark.
On dirait bien que la chanson française a du mal à se passer de ses talents d'alchimiste. Regardez les crédits des albums et vous y trouverez souvent son nom. Si les albums étaient des gâteaux, il serait chef pâtissier. Bonjour Albin de la Simone.
Bonjour.
Elle tient coup un peu la métaphore, fabriquer un album comme un gâteau ?
Ouais, pourquoi pas, mais il y a le créateur de l'album, le compositeur, l'auteur-compositeur, qui n'est jamais mentionné dans le cas des gâteaux. Alors que là, c'est lui qui apparaît. Moi, je fais les albums, mais je ne les crée pas. Enfin, je ne les écris pas. Enfin, j'en écris pour moi, mais je...
Oui, on va parler de tout ça, évidemment, mais j'essaie de savoir en quoi fonctionnent vos activités. Est-ce que vous diriez que c'est un mélange de technicité et d'inspiration ? Ça vous irait ?
Oui, le travail de réalisateur d'albums, c'est ça. C'est entre la technique et la création, oui.
Vous êtes auteur-compositeur-interprète, hein, on va en parler tout à l'heure, mais pour les autres, effectivement, vous êtes parfois producteur, réalisateur et même arrangeur. Arrangeur, c'est mon terme préféré. Mais par exemple, quelle différence entre un réalisateur et un producteur ?
Alors, ça dépend si on parle anglais ou français.
C'est la même chose, en fait.
Après, en France, le producteur, c'est celui qui paye. Alors, je ne suis pas celui-là. Mais le producer, au sens par exemple dans le rap et tout ça, c'est celui qui façonne la musique en anglais, et en français c'est le réalisateur. On fabrique, on réalise comme un film en fait. on réalise, on part d'une chanson qui est guitare-voix, par exemple, toute simple, vraiment très nue, et à la fin, il y a un album.
Mmh. Hein, où il y a un... D'accord, donc la réalisation. Mon terme préféré, c'est quand même arrangeur.
Ça peut être autre chose, ça, encore.
Enfin, ah oui, parce que c'est des ça veut dire quoi, arrangeur? Les choses ne vont pas bien, vous les arrangez?
Non, ouais, c'est pas ça, en
c'est
fait.
C'est pas ça.
Non, c'est redéfinir le décor musical, en fait. Voilà,
c'est-à-dire le décor musical, le type d'instrument.
Violon, qui joue. Alors, dans la réalisation, il y a qui joue, dans quel studio, quel est le mode opératoire, comment on va faire, est-ce qu'on va faire ça en une semaine ou en six mois, avec des machines ou avec des musiciens, qui va mixer, superviser tout ça, et être toujours évidemment en contact avec l'artiste, l'interprète, qui est plus ou moins impliqué selon les gens. Là-dedans. Et c'est faire le lien technique et artistique entre la réalisation, vraiment le côté fabrication, et totalement créatif, et la voix du chanteur ou de la chanteuse.
Et il arrive que l'arrangeur dérange ?
Ah bah oui, bien sûr.
Il est fait pour ça, même.
Il est fait pour proposer des choses qui arrangent ou qui dérangent, et qu'après, l'artiste choisit.
Il vous faut une bonne dose de psychologie, non ?
Ouais, je pense. Mais je suis chanteur aussi.
Oui, je sais.
Donc ça m'aide. Donc, ça m'aide parce que je m'adresse au chanteur comme j'aimerais qu'on s'adresse à moi. Enfin, je crois.
Ouais, un peu comme un réalisateur qui serait comédien aussi, si on prend au cinéma. On va passer en revue vos plus récentes collaborations. Il faut bien employer un mot, même si celui-là n'est pas terrible. La Simone a commencé par ce quelque chose.
Laquelle est dans ce quelque chose ? C'est la question.
Carla Brunier qui est venue ici à Culture Média à la sortie de son premier single Quelque chose sur son album attendu à l'automne.
Oui, donc elle est venue tout récemment. Alors,
bah oui, il y a deux, trois semaines. Mmh. Deux semaines peut-être. Mmh. Trois semaines, oui. Quelle heure étiez-vous sur cette...
Quelle heure? Oui. J'étais réalisateur Donc j'ai rencontré Carla qui avait des maquettes et des chansons qui étaient déjà écrites par elle, par d'autres compositeurs et aussi par elle, composées par elle parfois.
Quand vous dites j'ai rencontré Carla, elle vous a demandé?
Oui, on m'a proposé de la rencontrer et je l'ai rencontrée. On s'est bien entendu, en tout cas moi, j'avais une idée de ce que j'avais envie de lui proposer, de la Carla Bruni dont je rêve.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire quelque chose de très naturel. D'assez simple, d'assez évident et de pas américain, parce que j'aime beaucoup ces disques et je trouve que ça c'est un mot-clé qui revenait un peu souvent, la musique américaine. Donc là l'idée c'était peut-être de proposer quelque chose d'un peu presque, on s'est retrouvé presque en Italie de temps en temps. Et puis très acoustique et très live, très vivant, très enregistré tous ensemble.
C'est vous qui avez décidé d'enregistrer effectivement en quelques jours, live. Ça n'a rien à voir avec le confinement, ça.
Ah c'était... non, pas du tout.
D'accord.
Non, ça c'est une méthode que je. Enfin, c'est une méthode, c'est une manière de faire que j'adore parce qu'elle nous met dans un truc d'urgence. On ne peut pas réfléchir deux fois, on doit trancher tout le temps très vite et on avance très vite, mais surtout on garde beaucoup de fraîcheur et beaucoup de spontanéité. Par contre, il faut le faire dans les super studios avec des super musiciens.
Studio Ferber de mémoire.
Studio Ferber, formidable.
À Paris, qui est l'un des meilleurs.
Qui est mon studio préféré, je pense. Ouais.
D'accord. Alors, autre exemple d'artiste avec qui vous avez travaillé, Pomme, album Les Failles, Je ne sais pas danser.
Je ne vais pas sortir.
Voilà, quatre figures très différentes.
Oui.
Première, jeune artiste.
Jeune artiste, deuxième album.
Deuxième album, oui.
Mais mode opératoire assez proche. En fait, on avait aussi enregistré à Ferber en peu de temps. C'est des gens, Carla et Pomme sont des gens, des chanteuses qui peuvent s'impliquer dans la réalisation des disques, dans la matière, vraiment être là tout le temps, chanter à chaque fois qu'on joue. Donc, parce qu'il y a des chanteurs où il y a des modes opératoires qui sont différents. On enregistre tous les instrumentaux et on fait venir le chanteur à la fin.
Ah, ça
qui chante par-dessus.
Wow.
Oui, ouais, il y a toutes les possibilités.
C'est moins intéressant pour vous, j'imagine.
Disons que moi, ça m'ennuie un peu de passer tout le temps seul devant un ordinateur avec une voix témoin et après d'aller rajouter la voix. Et là, c'est un truc du coup qu'on vit collectivement, très intense pendant une semaine ou deux. Et puis, voilà, je trouve ça plus inspirant et plus chouette, quoi, plus agréable à vivre. On se fait des souvenirs, on se fait des grands moments. Ouais.
Et parfois, même, ça dure après l'enregistrement, voire la suite, on ne sait
bien
pas.
Sûr,
on
bien
sait
sûr.
Pas, hein. On ne sait pas ce qui peut arriver. Albin de la Simone est avec nous dans Culture Média. C'est bien beau de parler des autres, mais il ne faudrait pas vous oublier vous-même. C'est un peu le risque parfois, peut-être. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Pascal Clark.
Le musicien Albin de la Simone est dans Culture Média ce matin, finalement musicien.
Oui, c'est bien.
C'est le terme qui convient. Vous ne l'avez pas appris de façon très académique, vous, la musique. On peut dire que vous avez commencé par baigner dedans, non ?
Oui, c'est ça. J'avais un père clarinettiste de jazz, amateur, mais qui y avait de la musique tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Il m'a appris très rapidement à jouer du piano. Les accompagnements de base. J'étais l'accompagnateur de mon père, en fait. Lui, il pouvait jouer de la clarinette parce qu'il avait un accompagnateur gratos à qui il a
appris
la musique.
Ah oui, mais chez vous, là, dans votre...
Dans mon village, à côté d'Amiens.
Donc pas de solfège, rien de tout ça?
Alors le solfège, un peu après, ouais, quand même, un minimum. Mais j'ai vite compris que j'étais pas fait pour ça. J'ai pas du tout fait de classique, enfin, ou très très peu. Et j'ai fait du jazz, beaucoup de jazz, qui est tellement une musique technique et complexe qu'il a fallu quand même que je m'y mette un petit peu. Quoi. Mmh. Mais, voilà.
Et alors dans votre petit village, là, très petit village au nord d'Amiens, est-ce que vous vous sentiez artiste?
Oui, complètement. Complètement.
C'est quelque chose qui vient vite, enfin qui vient tôt, pardon pour le micro.
Ouais, je crois que c'était un peu présent tout le temps. Je crois que c'était dans cette direction-là que je voulais aller. Enfin, dans tous les perspectives que j'avais, ça a été quand même... Je voulais être soit dessinateur, soit musicien. Et ce qui est marrant, c'est que je suis aujourd'hui les deux.
Oui.
Mais vraiment, j'hésitais entre les deux. Je ne savais pas, par contre, que je deviendrais chanteur et que j'écrirais des chansons.
Ça,
des
c'est
textes.
Arrivé plus tard.
Ouais, ouais. C'est arrivé à 30 ans, ça.
Ouais, c'est incroyable.
Alors que c'est l'essentiel de ma vie aujourd'hui,
bah oui.
Le fait d'être chanteur.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne l'êtes pas autorisé immédiatement, loin s'en faut.
Je me suis un peu perdu pour parler en deux secondes de psychologie à 3 francs, mais bah... j'ai passé 10 ans à vouloir séduire mon père en faisant du jazz contemporain. Séduire ou l'emmerder, je ne sais pas trop, mais être meilleur que lui et en même temps être dans sa direction et tout ça. Et en fait, j'ai un peu perdu 10 ans parce que je me dis que si j'avais écrit ma première chanson à l'âge de 20 ans, ça se serait embrayé tout de suite comme ça s'est embrayé quand j'ai écrit la première chanson à l'âge de 30 ans. Mais en même temps, j'ai appris plein de choses en faisant du jazz et c'est une musique géniale.
Bah oui, puisque voilà, est-ce qu'on perd vraiment du temps, vous croyez?
Non. Non, mais c'est un chemin qui est du coup est assez... j'aime bien l'expression anglaise, les late bloomers, les gens qui fleurissent tard. Moi, je me sens tout à fait comme ça, dans une progression. Je suis même pas sûr d'avoir encore fleuri, quoi.
Ah, vous croyez?
Ouais, j'ai 50 ans cette année.
Bah ouais, je sais.
Je suis pas sûr de...
Bah voilà. Prenez votre temps en même temps, parce que vous pouvez très bien fleurir à 70 ans.
C'est ça. Ou alors peut-être fleurir plusieurs fois. On peut...
Ouais, ou fleurir dans une autre vie.
Ou fleurir dans une autre vie, voilà. L'important, c'est de jamais préférer hier. Quoi. Voilà, je m'arrange à préférer demain. Enfin, j'essaye.
Alors, vous avez quand même commencé par... Enfin, commencé après tout ça, hein, École des Beaux-Arts en Belgique, etc. Mais vous avez accompagné beaucoup des artistes sur scène. Hein. Mm-hmm. On peut vous voir, d'ailleurs, sur votre clavier.
Avec Alain Souchon, ou Vanessa Paradis. Ouais. Ouais, c'est vrai. Surtout sur disque. J'ai joué sur une bonne centaine de disques en tant que pianiste, clavier, synthé, tout ça. Des disques que je ne réalisais pas, où j'étais employé par le chanteur ou le réalisateur ou la maison de disques pour venir jouer et nourrir... de mes sons de clavier.
Et à un moment, il y a eu frustration. Comment est venu le passage à l'acte? Vous, sur scène, vous écrivant, composant pour vous-même et arrivant sur scène.
Alors, c'est pas frustration, mais si, dans le jazz, j'étais frustré parce que je me rendais compte que c'était pas mon langage, en fait, et que j'avais besoin des mots, donc j'étais frustré. Mais je ne comprenais pas ce qui me manquait. Et puis j'ai rencontré Mathieu Bogarts, Mathieu Chédid, Arthur Hache, des gens de mon âge à peu près, qui étaient en train de fleurir, eux. Et je me suis rendu, Catherine aussi. Et je me rendais compte que, en fait, c'est par là que je voulais passer. C'était
Arnaud
ça,
Catherine
mon langage.
Ou le chanteur Catherine
Le chanteur Catherine.
D'accord. Ouais.
Arnaud Catherine, je l'ai rencontré plus tard. le chanteur Philippe Catherine. Et je me suis rendu compte que la liberté que je cherchais n'était pas dans le jazz, qui était apparemment une musique libre. Le free jazz, tout ça, mais qui en fait n'était pas libre pour moi, dans laquelle j'étais pas libre. Mais par contre, la chanson, moi qui avais aimé Higelin, Dick Angarn, Alain Souchon, des chanteurs assez libres, Jean-Guy Donny et tout ça, je me suis dit, mais pourquoi depuis 10 ans je suis déconnecté de ce média-là alors que c'est ça qui me parle en fait.
Et puis un jour c'est arrivé, on va laisser passer une page de pub, Albin de la Simone, et puis après on va écouter un extrait de votre dernier album en date. Ben, je vous dis pas lequel, on verra tout à l'heure.
D'accord.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Pascal Clark.
10h30, vous écoutez Europe 1, nous sommes avec Albin de la Simone et on va vous écouter. À votre avis, j'ai choisi quel morceau sur votre dernier album en date ?
Le Grand Amour ?
Non, j'ai choisi une femme.
Ah, super.
Une femme dans chaque port, la même, me suivra-t-elle encore? Une femme quand je m'endors, la mienne, au lit jusqu'à l'aurore. Une femme qui embellit ma vie et qui la sale aussi. Une femme qui tient la houle, la barre, et moi qui perds la boule. L'aimer la vie entière, au moins l'aimer bien. En tout cas mieux qu'hier, moins bien que demain. Une femme pour moi tout seul, la mienne, tous mes amis la veulent. Une femme qui rit encore, qui m'aime, qui n'a pas jamais tort. Une femme toujours d'accord, toujours, et parfois pas d'accord. Une femme qui grandit encore, et moi qui rétrécis.
On pourrait l'écouter ad lib, ce morceau Une femme, Albin de la Simone, extrait de votre dernier album en date. Dites donc, ça fait 3 ans maintenant.
Eh oui, 2017. Ouais.
Et alors ?
Ben j'arrive tranquillement, très tranquillement.
Oui, dites donc, qu'est-ce que ça fait de vous écouter ou de vous entendre ? C'est selon vous-même. Vous avez un avis sur vous-même ?
C'est très difficile. Je sais pas trop si j'aimerais si j'étais pas moi. Je sais pas ce que j'en penserais. Après, là, à entendre comme ça, 3 ans après, je prends un petit recul quand même et je trouve que la musique est agréable de ce qu'on vient d'entendre.
Pas plus que
après,
ça.
Bah, ça m'emballe pas. Je trouve ça agréable. Je trouve ça chouette. On discutait pendant ce temps-là.
Ouais.
La voix du mec qui chante, ça reste un peu compliqué pour moi.
Pourquoi ?
Bah, vous aimez votre voix, vous êtes à l'aise, vous, à vous écouter.
Non, mais moi je m'écoute pas, donc comme ça.
Voilà,
c'est réglé.
Moi non plus.
Mais en même temps, je suis pas chanteuse. Mais
bon. Ouais, mais vous êtes de radio.
Oui.
En fait, on a tous un rapport un peu complexe à notre voix, vu qu'on s'entend de l'intérieur et que tout le monde nous entend de l'extérieur. Donc, non.
Mais disons, idéalement, si votre voix était différente, vous l'aimeriez comment ?
Je sais pas, j'ai pas de jugement, c'est juste que j'aime faire, j'ai besoin d'exprimer, mais je ne fais pas de la musique pour l'écouter. Je fais pas la musique que j'ai envie d'écouter. Presque, alors que dans le dessin, je peux aimer un dessin que je fais. C'est marrant, c'est peut-être parce que ça, je dessine moins ou pas professionnellement, ou, mais je peux mettre au mur un dessin que j'ai fait, mais jamais je mets un disque que j'ai enregistré, quoi. Mmh. Jamais je mets une chanson à moi.
C'est la transition que vous m'offrez sur un plateau, parce que vous me disiez pendant le disque, c'est donc qu'on parlait et que vous ne vous écoutiez pas forcément, que le dessin est revenu. Vous avez fait les Beaux-Arts, une école de...
Oui, Saint-Luc, c'est une école de, d'art plastique.
D'art plastique, pardon.
Où j'ai passé mon bac, en fait, c'est il y a vachement longtemps, c'était avant Jésus-Christ.
Oui, donc... C'était au moins au siècle dernier. Vous avez commencé par là, en fait, avant de, par le dessin. Et vous m'expliquiez, Alain de la Simone, que ça, ça revient alors que vous avez fait l'impasse pendant plusieurs décennies.
Pendant 30 ans, je n'ai pas dessiné. Je ratais tous mes dessins. Enfin, j'étais complexé de ça. Je savais que je n'étais pas capable de finir un dessin et de le trouver bien. Et puis,
Mais vous n'êtes que complexe, en fait.
Bah oui, mais j'assume, j'aime bien être complexe. Enfin, de toute façon, tout est complexe. Et puis c'est une forme de richesse aussi. En tout cas, ma vie est riche, du coup.
Mais vous finissez par faire, quand même. Mais j'ai l'impression qu'il faut quand même que vous ayez une sorte de combat avec vous-même, que vous laissiez tomber pas mal de choses, de défenses ou de quoi.
Les choses me reviennent quand elles sont importantes. Mais c'est vrai que j'ai commencé très complexé et je me décomplexe au fur et à mesure, Mais tant mieux, ça me laisse de la marge de progression.
Alors le dessin, donc, je le signalais tout à l'heure avec Damien Caprespine, c'est vous qui avez dessiné tous les produits dérivés de la rétrospective Louis de Funès en cours à la Cinémathèque. Oui. Comment c'est arrivé cette histoire ?
C'est arrivé grâce à, plus ou moins grâce à Instagram sur lequel je publie des choses, grâce à une amie commune qui a créé, commune avec les gens de la Cinémathèque, qui a créé le musée Louis de Funès à Saint-Raphaël, pour laquelle j'avais dessiné des personnages de Louis de Funès. Et puis finalement, ça s'est embrayé, les gens de la Cinémathèque m'ont contacté.
Il vous inspire Louis de Funès ?
Lui-même, physiquement, non. Mais Rabbi Jacob, Les Bagnoles, Fantomas, c'est vachement inspirant. Visuellement, c'est inspirant. Mais j'ai dû chercher. Je réfléchissais justement pour m'amuser à comment je peux représenter Louis de Funès. C'est sûrement en ne mettant pas sa tête, en tout cas. Donc je dessine jamais la tête de Louis de Funès. Je dessine son corps, je dessine ses attitudes. Et puis ça fait des belles boules à neige, des beaux sacs.
Non, parce qu'il est quand même... Louis de Funès, c'est le mouvement permanent et les expressions permanentes. Donc dans un dessin, il est fatalement figé.
Alors j'ai fait un flipbook.
Ah, il y a un flipbook quand même.
On voit la danse de Rabbi Jacob, donc on peut animer le dessin quand même.
D'accord. Autre chose ?
Autre chose.
En termes de dessin ?
Je fais une exposition de dessin à la gare de Rennes en septembre.
Ah, quand même ?
Oui, sur des grands panneaux dans la gare.
Quel genre vos dessins alors ?
Alors, c'est des dessins dans lesquels je raconte ma tournée. Ma dernière tournée, parce que je dessinais en tournée, et la tournée, c'est des hôtels, des petits-déj. C'est beaucoup d'intendance en fait.
Vous vous souvenez de ça ? Vous souvenez ? Il y a une époque où les artistes allaient sur scène et se produisaient.
Ouais, j'ai des vagues souvenirs, mais justement, je raconte ça. Je raconte les coulisses de ça pour les gens qui n'ont pas connu ça. Il y a tellement longtemps.
Ça va vous manquer ça, non ?
Ça commence à me manquer, oui, déjà. Mais en même temps, n'ayant pas un nouvel album, je ne vais pas arriver avec une nouvelle tournée. Puis il y a besoin de place pour tous les gens qui ont sorti des disques récemment. Donc je laisse la place un petit moment, puis après, je viendrai reprendre ma place.
Bah oui, mais enfin, vous travaillez pour ça, le prochain album, on peut l'entrevoir déjà ?
Non. On peut entrevoir quelques chansons, non, que je ne publie pas du coup. Non, j'ai 5 nouvelles chansons, j'y vais très doucement. Mais je fais aussi un spectacle au TNB à Rennes en novembre qui s'appelle Les Films Fantômes. Et ça, c'est un truc que je trimballe depuis assez longtemps, mais là, je le fais naître vraiment, où j'invite le public, je raconte des films qui n'existent pas au public. Alors en jouant la musique en live, c'est une grande expo aussi où il y a, l'affiche japonaise des films, Karine Viard qui passe un casting pour avoir le film, des merchandising, des tas de trucs pour raconter des films, pour jouer à les imaginer.
Vous êtes spécial.
Vous trouvez ?
Ouais.
Je prends ça comme un compliment.
Bah bien sûr.
D'accord.
Albin de la Simone étant avec nous pour quelques minutes encore, on va arriver aux indispensables de Culture Média. Margot Barallon vient nous parler de la série Perry Mason sur OCS. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Pascal Clark.
Et place aux indispensables de Culture Média. Bonjour Margot Barallon.
Bonjour Pascal, bonjour à tous.
Je vous présente Albin de la Simone.
Bonjour.
Aujourd'hui Margot, vous nous conseillez une série diffusée sur la plateforme OCS.
Et ça s'appelle Perry Mason, et ce nom devrait dire quelque chose aux amateurs de séries vintage. Puisque Perry Mason, c'est d'abord une série diffusée pour la première fois en 1957. Vous entendez le générique qui sent bon, la télé en noir et blanc. Série judiciaire, le fameux Perry Mason étant un célèbre avocat de Los Angeles dont on va suivre toutes les plaidoiries.
Et donc la version 2020, on dépoussière, c'est ça?
On dépoussière, mais c'est aussi un prequel. C'est-à-dire que l'histoire se passe avant. Avant que Perry Mason devienne avocat. Alors cette version se déroule toujours à Los Angeles, mais au début des années 30, Perry Mason n'est encore que détective privé, et vous allez l'entendre pas au mieux de sa forme.
Vous savez que vous êtes profondément agaçant. Vous buvez trop. Votre hygiène personnelle laisse à désirer. Et ça m'énerve que vous cachiez votre intelligence et votre sens moral derrière du cynisme et de la paresse.
Voilà, donc il est en gros sale et alcoolique.
Sympa.
Et au début de l'histoire, arrive sur son bureau une affaire sordide qui met tout Los Angeles en émoi. Un bébé, Charlie Dodson, a été kidnappé et tué. Très vite, la mère va être accusée et Perry Mason engagé par son avocat pour démontrer qu'elle est innocente.
C'est donc une série policière davantage que judiciaire.
Exactement. Adieu les scènes de procès, en tout cas sur les premiers épisodes. On est sur une enquête au long cours qui est absolument passionnante, mais au-delà de l'intrigue, ce qui est très réussi avec ce Perry Mason version 2020, c'est l'ambiance. Rien à voir avec celle de la série originale. Là, on a une très belle série, vraiment cinématographique, qui s'inspire beaucoup et rend hommage au film noir. On plonge directement dans l'Amérique des années 30. C'est l'époque de la prohibition, vous savez, celle où les hommes boivent leur bourbon sous le manteau, avec des chapeaux Fedora vissés sur la tête, en écoutant du jazz, évidemment. Alors c'est surtout une série en fait qui raconte l'Amérique de l'époque, Amérique traumatisée par la Première Guerre mondiale. Perry Mason lui-même en revient, c'est lié à son alcoolisme directement, et puis traumatisé ensuite par la Grande Dépression. Amérique bigote, sexiste, raciste aussi, avec un personnage de policier noir très intéressant.
Chaque jour je me réveille la boule au ventre. Je dois enfiler cet uniforme, sortir et jouer l'imbécile. Vous savez, pas un officier noir ne fait équipe avec un blanc. Pas un. On patrouille à pied, tout seul. On maintient l'ordre chez les noirs. On ne me laisse même pas menotter un blanc. Même un criminel blanc, un meurtrier blanc, a le droit de me prendre de haut.
Est-ce que vous avez la moindre idée de ce que ça fait? Alors évidemment, j'ai dit que c'était un portrait de l'Amérique de l'époque, mais rien ne vous empêchera peut-être de repérer des similitudes avec celles d'aujourd'hui.
Oui, rien du tout. Peut-être un mot du casting, Margot. Dans la série originale, c'était Raymond Burr qui interprétait Perry Mason. Qui est chargé de reprendre le rôle?
Alors, il s'appelle Matthew Rhys. C'est un acteur que personnellement, j'aime beaucoup. Il s'était déjà fait remarquer dans une autre très bonne série, The Americans. Oh. Ça, c'était l'histoire d'un couple d'espions soviétiques.
Ça parle à Albin de la Simone. Ouais.
C'était génial cette série.
Absolument génial. Six saisons que je vous conseille aussi au passage. Et bien là, dans Perry Mason, Matthew Rhys est tout simplement impeccable dans le costume du détective un peu usé. Le reste du casting est à la hauteur. On a une myriade de seconds rôles masculins et féminins particulièrement savoureux. Mention spéciale à Juliette Rylance. Son nom vous dit peut-être rien, mais son visage probablement. Elle est habituée des seconds rôles. Et là, dans celui de l'assistante de l'avocat, elle est absolument incroyable.
Perry Mason, le préquel sur OCS. Donc, c'est ça. Merci beaucoup, Margot Barallon, pour cette recommandation. Albin de la Simone, à vous de faire tourner. Est-ce que vous avez quelque chose à nous conseiller?
Oui, beaucoup. Beaucoup. Mais alors, beaucoup. Du coup, je rebondis sur une série qui m'a vraiment beaucoup plu, qui est Sex Education sur Netflix. Et qui...
Saison 2
Deux saisons. Et c'est hyper émouvant, hyper beau, les relations entre adolescents et leurs parents, et entre eux, beaucoup. Et surtout, c'est très coloré, très joyeux, ça se passe aujourd'hui. Mais j'aurais tellement aimé avoir ça quand j'étais ado. Ça parle donc de beaucoup de sexualité, très clairement, mais d'une manière super ouverte, super moderne et très douce. Et vraiment, ça m'a beaucoup, beaucoup touché.
Vous avez pris des choses, peut-être?
J'y ai pris des choses. Je vais y retourner, je vais la revoir.
Et sinon?
Sinon, je sors de l'exposition. Enfin, hier, je suis allé voir l'exposition Christo à Beaubourg. Et ça m'a beaucoup touché. Christo et Jeanne-Claude. Jeanne-Claude était un membre éloigné dans ma famille. Donc, il y a toujours eu cette espèce de
Dora,
de ces grands artistes dans la famille que j'ai rencontrés un petit peu. Et donc là, de les voir, il y a un film qui est magnifique. Et puis de voir les dessins, j'allais dire les dessins manuscrits, les dessins originaux de tous les plans du Pont Neuf et tout. Comme moi, j'ai vu le Pont Neuf, que j'ai vu les travaux et tout ça, ça m'a beaucoup touché aussi. Mmh. C'est très beau. Il y a un très beau film qui dure une heure, qui les raconte eux deux et ils sont magnifiques.
Leur relation avait l'air incroyable.
Ah ouais. Oui, c'est vraiment pas accessoire. Enfin, c'est-à-dire qu'ils ont chacun leur place et on sent qu'ils sont importants tous les deux. Mmh. Et Jeanne-Claude a signé seulement à la fin de sa vie. Au départ, c'était Christo pendant 30 ans. Et puis, c'est devenu Christo et Jeanne-Claude. Et je trouve que c'est très juste. Mmh. Parce que c'est... elle, c'est aussi l'ingénierie. Enfin, pas l'ingénierie. Disons que c'est le marketing, toute la pensée qui va avec.
Et
la faisabilité des choses. Et lui est très... Alors lui est très architecte quand même, très ingénieur aussi. Hein. C'est d'un technique ce qu'ils font. Et en même temps, c'est dingue, quoi. Emballer le Pont Neuf, emballer le Reichstag...
Et bientôt l'Arc de Triomphe,
et l'Arc de Triomphe
en 21. Enfin,
voilà, posthume en plus.
Ben ouais. Mmh. Albin de la Simone, bon, donc pour votre prochain album, il n'y a pas de date ?
Pas du tout.
Pas du tout.
Pas du tout. Plus il y aura une date, moins j'y arriverai.
C'est ça, bon, ben prenez votre temps, rendez-vous dans.
Dans. Rendez-vous dans.
Rendez-vous dans. Une prochaine collab ?
Non. Pas, je collabore avec moi-même pour l'instant. Ben, je veux écrire des chansons. J'ai une autre exposition de dessin à Saint-Gratien, en banlieue parisienne. J'ai plein de choses, plein de projets.
Ah non, je suis pas inquiète. Hein.
Non,
je suis
moi
pas
non
du
plus.
Tout inquiète.
Mais donc, là, j'arrête un petit peu de collaborer, justement, pour collaborer avec moi, pour m'accorder un peu de
bah,
temps.
Vous faites bien, oui. Est-ce que vous suivez, ben oui, forcément, la destinée des albums que vous réalisez,
ah,
que
ben,
vous,
oui,
pour les
prêt.
Autres
oui.
Y a eu des bonnes surprises. Parfois.
Bah, l'album de Pomme, c'est une très belle histoire et en même temps c'est une histoire un peu triste parce que elle a eu une victoire de la musique en février, elle devait faire les Vieilles Charrues, tous les grands festivals et puis elle a été un peu fauchée en plein envol à ce niveau-là en tout cas. Après l'album a une belle résonance et ça me fait vachement plaisir parce qu'elle est très forte. Puis je suis très pressé de voir sortir l'album de Carla Bruni aussi. Enfin, tous les albums que je réalise, Pierre Lapointe aussi, un album de Pierre Lapointe. Le dernier que j'ai réalisé, c'est vraiment des choses dans lesquelles je m'applique.
Québécois, Pierre Lapointe.
Québécois, ouais. Mm-hmm. Ouais. Grand Québécois.
Grand Québécois, ouais.
Et je m'y implique tellement qu'après, oui, j'y suis... Enfin, ça devient des membres de ma famille, les albums.
Et à l'inverse, vous êtes parfois demandeur, ça se passe aussi dans ce sens-là ?
Rarement, non. Si, un album de Miossec, j'avais fait savoir que j'étais partant pour réaliser un album de Miossec, ce qui tombait tellement des nues, tellement on n'est pas proche. Stylistiquement, en fait, dans l'écriture, dans la manière
quel
d'être.
Quel album ?
Ici-bas, ici-même, uh-huh. Qui est l'avant-avant-dernier album.
Vous savez que c'est ma faiblesse, Miossec.
C'est vrai ?
Ouais.
Ah non, je ne savais pas.
Ouais,
je l'ai arrangé, réalisé avec lui. Et c'était tellement pas évident que j'ai manifesté le fait que j'entendais un Miossec. J'entendais une couleur pour Miossec. Et en fait, on s'est rencontrés et on s'est rendu compte qu'on avait les mêmes goûts musicaux, qu'on ne faisait pas du tout la même chose, mais qu'on pouvait se rencontrer. Et comme on vient de loin chacun l'un de l'autre, on a vachement de marge pour se rencontrer, vachement d'espace. Et c'est super intéressant. Alors que travailler avec quelqu'un de très proche stylistiquement, finalement, on se marche sur les pieds un peu. Mm-hmm. Là, on pouvait courir, quoi. C'était super.
Voilà, et vous rêvez encore de quelqu'un ?
Non. Non, c'est,
okay.
Ben non, mais ben, ça vient comme ça. Pour l'instant, je rêve de moi. Là, j'aimerais bien justement... réussir à trouver en moi, à retrouver l'inspiration un petit peu.
Merci beaucoup, Albin de la Simone, d'être
Pascal
passé
Clark.
Par Culture Média. Donc voilà, quand vous voulez pour votre prochain album, on a du temps. Hein. Enfin bon, tardez pas trop non plus.
Non,
hein.
Comme je vous dis, je m'y mets sérieusement.
D'accord.
Ouais.
L'album de Carla Bruni sortira à l'automne et
oui.
Il est bien.
Ah bah oui,
ah bah,
évidemment,
oh oui.
Évidemment. Non, il est super, il est super, super.
Dans 3 minutes, dans Culture Média, vous allez découvrir la première page du prochain roman de Philippe Dian qui s'appelle 2030. Et d'abord, on en parlait, on en a beaucoup parlé. Voici Pomme sur Europe 1, La Lumière. Merci. Pour la première fois, et Dieu sait qu'il n'était pas d'une nature belliqueuse et ne s'était jamais ouvertement révolté contre les pratiques de son beau-frère, il défia celui-ci du regard et faillit lui balancer tout le paquet de feuilles à la figure. Il hésita un instant, puis il ouvrit la main et laissa tout tomber à leurs pieds, sans un mot. Après quoi il sortit du bureau en claquant la porte. Il traversa l'accueil, encore tremblant de rage, à peine salua-t-il le vigile et son chien loup endormi entre ses jambes. Il avait toujours su qu'Anton était une belle crapule, que le laboratoire qui portait son nom ne s'embarrassait plus guère de probité ni d'éthique. Il faisait déjà nuit, mais la chaleur demeurait étouffante. On ne pouvait s'empêcher de grimacer en quittant l'air climatisé. Il récupéra sa voiture sur le parking que bordaient de jeunes arbres aux feuilles rabougries par le manque d'eau. Il aurait... Eh oui, c'est ça, c'est le jeu de la première page. On s'arrête quand on s'arrête. J'étais pressée hein, de lire le prochain Philippe Dian. 2030, en fait, c'est le 16 septembre qu'il sortira chez Flammarion. Voilà. Culture Média d'été, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous demain, nous serons avec le comédien humoriste Kéron et avec la journaliste Pascale Robert-Diard, journaliste du Monde qui a signé la série Gabriel Russier. À suivre sur Europe 1, Anne Roumanoff, le best-of. Je ne vous embrasse pas, à demain.
Europe 1, Culture Média, Pascal Clark.